9h42 à Paris, tout de suite le journal des sports. Toujours avec Victor Missistrano ce matin et on commence, Victor, par du basket aux États-Unis. La grande finale de la NBA approche.
Et Pascal Siakam et Indiana ne sont plus qu'à une marche. L'ailier camerounais encore impressionnant cette nuit avec 30 points. Victoire des Pacers 130-121 face à New York. Ça fait donc désormais 3-1 dans cette finale de la conférence Est. Et donc si Indiana l'emporte demain soir, les Pacers se qualifieront pour la deuxième finale de l'histoire de la franchise après celle perdue en 2000, ce serait aussi la deuxième finale en carrière pour Siakam, le natif de Douala, déjà champion en 2019 avec Toronto dans la conférence Ouest. Oklahoma, l'équipe du meilleur joueur de la saison, Shai Gilgeous-Alexander, rejoindra aussi la finale en cas de succès la nuit prochaine contre Minnesota.
En football, alors que la plupart des sélections s'apprêtent à se rassembler début juin, ce ne sera pas le cas pour l'équipe nationale de Guinée.
Oui, on vient de l'évoquer, le Sili National devait pourtant préparer la suite des éliminatoires du Mondial 2026. La décision a été confirmée hier soir, Tiernoia Diallo. Les matchs amicaux contre le Niger et la Tunisie n'auront pas lieu.
La faute à une divergence de vue entre la Fédération guinéenne de football et le ministère des sports principal, Bayard de Fonds. Ces derniers semblent avoir coupé les vivres à l'instance dirigeante du football guinéen, arguant du fait qu'il serait plus judicieux de se concentrer sur la préparation du championnat d'Afrique des Nations. Mais à la difficulté de trésorerie s'ajoute une dissension importante. Les deux entités ne s'entendent pas en effet quant au staff technique qui doit conduire l'équipe nationale. Michel Dussier est revenu à la rescousse pour la fin des éliminatoires de la CAN, n'a toujours pas signé de contrat. Et le technicien français aurait exigé ne serait-ce qu'un accord sur une pige pour conduire le Sili lors des derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. La fédération soutient cette idée, mais le département ne l'entend pas de cette oreille. Depuis l'éviction de Kabadiawara en juillet dernier, la Guinée tâtonne pour trouver un sélectionneur. La piteuse élimination de la CAN 2025 en est une résultante. Sans sélectionneur, sans staff et apparemment sans moyens financiers, le Sili National restera donc à quai pour la dernière fenêtre internationale de la saison. Tiernoia Diallo, Conakry, RFI.
Et au classement dans ces éliminatoires du Mondial, la Guinée est très mal embarquée à l'avant-dernière place, Andréane, du groupe G.
Et puis, c'est le rendez-vous que toute la planète foot attend, bien sûr, la finale de la Ligue des Champions, samedi, entre le PSG et l'Inter Milan.
Oui, le compte à rebours se poursuit, c'est dans 3 jours maintenant. Le sujet revient évidemment dans toutes les conversations. Par exemple, hier soir à Auxerre, en France, pendant le jubilé de la légende Djibril Cissé, en présence de Didier Drogba, Thierry Henry ou encore Kalilou Fadiga, l'ex-international sénégalais qui aurait dû jouer pour l'Inter en 2003 sans un problème cardiaque décelé à la visite médicale. Il se projette, l'ancien Auxerrois, sur cette finale de Ligue des Champions.
Tout le monde le sait, je pense que c'est un secret de polichinelle, c'est pour tout le monde. C'est en 1981 que je suis supporter du PSG, même quand je jouais pour Auxerre, mais ça ne m'a pas empêché de représenter la GIA et là où j'ai joué contre le PSG. Mais c'est vrai que je suis le premier supporter du Paris Saint-Germain. J'espère que pour cette fois-ci, que ça sera la bonne pour nous.
Des propos recueillis par Saliou Diouf. Et en attendant cette finale de la plus belle des compétitions européennes, ce soir il y a celle de la troisième, la moins prestigieuse, Chelsea-Betis-Séville en Conference League, 19h temps universel.
Merci Victor Missistrano, belle journée à vous. L'actualité de ce mercredi 28 mai 2025, c'est notamment cet anniversaire, la CEDEAO, à 50 ans, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, un demi-siècle après sa création. Le 28 mai 1975, c'était à Lagos, au Nigeria. Moïse Gomis, notre correspondant au Nigeria, revient justement avec nous sur le contexte de la création à l'époque de l'organisation sous-régionale.
It is also my sincere hope.
Ce 28 mai 1975, le général Yakubu Gowon savoure l'instant. Le président Léopold Sédar Senghor a délégué son premier ministre Abdou Diouf, mais l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny et 9 autres chefs d'État écoutent le discours de leur père nigérian, habillé en uniforme militaire d'apparat. Yakubu Gowon.
C'est un jour mémorable, le résultat d'un effort persistant de la part des dirigeants de tous les coins de l'Afrique de l'Ouest. Un autre pas important et concret pour donner des effets pratiques aux aspirations que nous nous sommes tous efforcés de concrétiser depuis le début de la dernière décennie.
De 1972 à 1975, le président nigérian et son homologue togolais Nyasimbe et Yadema défendaient lors d'une tournée ouest-africaine le concept de l'intégration régionale. Yahuza Urosama est l'actuel greffier en chef à la Cour de justice de la CEDEAO. Pour lui, le traité de Lagos a servi de colonne vertébrale à des nations dont l'indépendance était récente à l'époque.
Il y avait des États qui étaient en guerre, qui s'entre-déchiraient. Il n'y avait aucun cadre dans lequel ils pouvaient discuter ou dialoguer pour mettre les choses en commun. Il y avait également des économies fragmentées, des pays qui étaient non structurés.
La libre circulation des personnes devient l'un des acquis majeurs dès le démarrage de la CEDEAO. Pourtant, jusqu'aux années 90, traverser une frontière terrestre avec une pièce d'identité est loin d'être un réflexe pour des millions de Ouest-Africains. Tony Luka Elumelu est un ancien officier d'immigration nigérian.
La plupart des gens ne se déplaçaient pas avec un passeport. Ils se déplaçaient avec un document officiel, comme au Nigeria et au Niger à la frontière. Il s'agissait simplement d'une autorisation fiscale délivrée par l'un ou l'autre pays. Et c'est ce que les gens utilisaient à l'époque pour traverser la frontière.
50 ans après le traité de Lagos, la CEDEAO vit à l'ère numérique. Et son seul fondateur encore vivant, Yakubu Gowon, possède un passeport vert biométrique comme des millions de citoyens ouest-africains. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Et cet anniversaire de la CEDEAO, aujourd'hui, on en parle dans toutes nos éditions sur RFI. On y revient notamment dans un long éclairage. 1975, naissance de la CEDEAO, l'unité dans la rivalité, c'est à la une de notre site RFI.fr. J'ajoute que Juan Gomez est à Abidjan aujourd'hui pour une émission spéciale d'appel sur l'actualité dédiée à cet anniversaire. Rendez-vous à 10h10, juste après le journal.
RFI Matin.
C'est un projet titanesque qui est en train de voir le jour à Darla, dans la région du Sahara occidental administrée par le Maroc. Ce projet, c'est le suivant, un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-conteneurs et des super-tankers. Dans le cadre de l'initiative Royal Atlantique, le port, entièrement financé par le Royaume, a pour objectif de proposer un nouvel accès à la mer pour les pays enclavés du Sahel et de renforcer les échanges sud-sud, notamment avec l'Amérique du Sud. C'est notre dossier Afrique Économie ce matin. Il est signé François Mferkataji.
Sur les hauteurs de ce chantier pharaonique lancé il y a 3 ans, en pleine zone désertique, une femme observe aux jumelles le balai de camions. Elle s'appelle Nisrine Newsy.
Directrice de suivi et de supervision de la réalisation du nouveau port de Darla Atlantique.
La côte a été terrassée sur plusieurs centaines de mètres pour le stockage, façon Tetris, de milliers de quadripodes, ces petits plots de béton à 4 bras capables de dissiper l'énergie des vagues et fortifier les digues portuaires.
Non, ils sont quand même 5000 hectares d'exploitation de carbone.
Darla Atlantique, c'est 1500 employés, plus d'1 milliard d'euros d'investissement par l'État marocain pour une infrastructure multifonction.
On parle du conteneur, on parle du trafic tir, on parle justement des hydrocarbures verts, de l'hydrogène vert, de l'industrie de la pêche et de la réparation navale. Tout cela, c'est des segments d'activité qui ont beaucoup de potentiel et qu'on a identifié pour pouvoir les drainer à travers un grand port comme le port de Darla Atlantique.
Selon la vision étatique, ce port permettra le développement économique des provinces du Sud, vocable marocain dans un contexte de territoire disputé. Ses concepteurs le présentent comme une nouvelle option pour les États du Sahel, enclavés qui n'ont pas d'accès direct à la mer.
Désenclaver les pays du Sahel, c'est également une opportunité pour augmenter le commerce extérieur et également pour créer des investissements, la création d'emplois et le développement socio-économique de façon générale pour les pays du Sahel.
Instrument d'ancrage territorial et outil de développement de nouvelles routes commerciales maritimes, notamment avec l'Amérique du Sud, les enjeux stratégiques géopolitiques sont nombreux, tout autant que les défis d'ingénierie et environnementaux dans une zone écologique sensible. Pour gagner en tirant d'eau et accueillir les plus gros porte-conteneurs, un pont d'1,2 km a été construit perpendiculaire à la côte et l'équivalent de 28 hectares de terrain ont été gagnés en mer. Nisrine Youssi, casque sur la tête, a troqué sa veste noire pour un gilet jaune de chantier.
On a pensé aussi que c'était important de ne pas totalement fermer le courant littoral. Et donc on a réfléchi tout d'abord à faire le pont pour avoir les plus hauts fonds. Et également aussi pour une question aussi environnementale, de ne pas faire une digue pour fermer un peu quand même le contact entre le trait de côte et la première profondeur qui est la profondeur de moins 12.
Le projet a atteint un taux d'avancement de 45% et la livraison du port est attendue pour décembre 2028. 35 millions de tonnes de marchandises pourraient y transiter chaque année. François Mferkataji, de retour de Darla, RFI.
Et c'était Afrique Économie sur RFI, 9h52 à Paris. Tout de suite, musique.
Balan, 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 Kambora.
Voilà une entrée en matière qui marque les esprits. Balan, ce titre hommage au balafon, le xylophone d'Afrique de l'Ouest, pour débuter notre choix musical. Titre qui ouvre l'album Balabeat, ce qui fait fusionner, comme son nom l'indique, balafon et afrobeat. Bonjour Carmen Lutzmann.
Bonjour Andréane.
Un mélange audacieux donc entre l'instrument ancestral et les rythmes urbains actuels de l'Afrique. C'est la marque de fabrique de Kanazoé Orchestra. Vous pouvez nous en dire plus sur eux, Carmen?
Oui, évidemment, c'est un combo franco-burkinabé, né à Toulouse dans le sud de la France en 2013. Donc trois Français, trois burkinabés, dont au cœur du groupe un balafoniste génie, initié à cet instrument dès ses 5 ans et reconnu aujourd'hui par ses pairs comme le plus grand virtuose du balafon, Seydou Kanazoé Diabaté.
Le balafon pour moi c'est tout quoi. En fait je suis famille griot, mon grand-père, tout le monde jouait le balafon. Au Burkina, c'est joué pour les fêtes, que ce soit les mariages, que ce soit les morts, un vieux décès, on joue pour l'accompagner, pour aller voilà, dans les tombes. Le balafon, c'est vraiment... Moi, je suis né dedans.
Virtuose, c'est doux, Diabaté, mais il ne se contente pas de briller, Carmen, il semble vouloir révolutionner l'art du balafon.
Oui, Andréan, ça se ressent dès le quatrième album, mais surtout dans ce quatrième album, Balabeats, où le Kanazoé Orchestra décline en 10 titres, presque autant de styles, de l'afropop à l'afrotrap, une sorte de rap, en passant par l'amapiano, la house d'Afrique du Sud et le naija du Nigeria, poussant le balafon jusqu'à l'électro rock dans ce morceau qui souffle un vent de révolte et exhorte les Africains à se lever.
On comprend, hein, Carmen, le balafon se fond dans n'importe quel décor musical, transcendant les styles et les frontières avec une facilité, ma foi, déconcertante. Est-ce qu'il porte des messages?
Bah, toujours, Andréane. Selon la légende, cet instrument a été offert par les esprits à une tribu du Burkina Faso pour communiquer avec l'au-delà. Au sein du Kanazoé Orchestra, il dialogue avec un saxophone, une basse, des machines, la batterie de Laurent Planel, toujours dans le but de créer des passerelles.
Moi, j'ai habité au Mali, Martin en Côte d'Ivoire, et la philosophie que défend le groupe, c'est déjà le vivre ensemble, faire un pas vers l'autre. Et après, c'est beaucoup eux qui écrivent les paroles autour d'eux, ce qu'ils ont envie de défendre pour l'Afrique et de leur vision de l'Afrique, eux, en tant qu'Africains qui vivent en France. L'exil, la famille qui reste au pays, ces choses-là. Kafara nyonga bila siti takanyonto Kawala maninga bisa mpe hijuli kilenye. Iye tumamuye, iye farafiye Ambeye ala na mfeleye. Iye tumamuye, iye farafiye.
Yeah. C'est un appel à la paix et à la tolérance que lance ce titre Anne Kaben. D'autres morceaux célèbrent l'amour pour le continent, la fierté ou la jeunesse, symbole d'espoir et de changement pour l'Afrique. Et même quand ils évoquent le passé sombre de l'esclavage, leur musique exprime la foi en un monde meilleur.
Je bali mona, I cana je sini mona, I cana je tirula. I cana je furmusola, I cana je furukela, I cana je wolodeuna.
Balabits, l'album de Kanazo et Orchestra. C'était notre choix musical ce matin. Merci Carmen Lunsman.
Merci Andréane.
Et c'est ainsi que se termine notre matinée ensemble. Merci à vous d'être là, auditeurs fidèles de la Radio du Monde. Ou si vous ne faites que passer, vos programmes continuent sur RFI. Dans une minute, le journal suivi d'appels sur l'actualité. Émission spéciale aujourd'hui à Abidjan à l'occasion du 50e anniversaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Quel bilan tirer à après un demi-siècle d'existence, Juan Gomez et ses invités vous attendent. Rendez-vous 8h10, heure d'Abidjan et temps universel. Demain, vous retrouverez Marion Cazanov dès 5h, temps universel pour RFI Matin. Belle journée à toutes et à tous.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
sur les pas d'une biographe hospitalière, un reportage long format de Charlie Dupio.
Demain,
vos questions en direct à la sexologue Noëlle Caillarcy.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les règles toujours taboues sont une cause d'absentéisme scolaire. Comment aider les jeunes filles ?
Demain,
génération climat, entre contradiction et lassitude, reportage au cœur d'une jeunesse pas vraiment écolo.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.